En 1974, le hameau de Fontaine-l'Évêque était englouti sous les eaux.
Et vous le savez, ce week-end, c'est le week-end des Journées européennes du patrimoine. Et celui-là de patrimoine, eh bien, il est sous les eaux. C'est un patrimoine étonnant. Fontaine-l'Évêque était un hameau dans les Alpes de Haute-Provence. À l'époque, non, c'était juste les Alpes de Haute-Provence depuis peu de temps. Et qui a été tout simplement sacrifié. Pour monter le barrage de Sainte-Croix que tout le monde connaît à l'heure actuelle. L'initiative émane de la médiathèque Lucien-Jacques à Gréoux-les-Bains qui organise une projection et en même temps un retour sur cette histoire très particulière. J'ai le plaisir d'accueillir la directrice de la médiathèque, Jennifer Top. Bonjour Jennifer.
Bonjour François, bonjour à tous.
Nous allons parler avec vous bien sûr de cet événement mais aussi des Journées européennes du patrimoine et avec nous. Et c'est un fin connaisseur du patrimoine dans les Alpes de Haute-Provence, Philippe Borgard, qui est archéologue. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Ravi de vous recevoir pour parler de ce projet englouti, enfin de ce dossier englouti. Alors, qu'est-ce que c'était Fontaine-l'Évêque et puis pourquoi l'avoir recouvert d'eau ?
Fontaine-l'Évêque, c'est un endroit qui était assez extraordinaire de l'opinion de tout le monde. Pour ses beautés naturelles, c'est la source de type vauclusien la plus célèbre, je pense, de la région. Il reste encore Fontaine de Vaucluse dans le Vaucluse. Fontaine-l'Évêque, c'était la même chose, en mieux. Je suis basalpin, donc je suis un peu de mauvaise foi peut-être. Et c'est un endroit qui, de tout temps, a attiré des gens importants. C'est là, par exemple, qu'avait été élevée l'une des résidences secondaires des évêques de Riez. C'est là qu'avait été édifié aussi un monastère de femmes, dont les vestiges étaient encore préservés au moment où le lac a été aménagé. Donc, c'est un endroit extrêmement intéressant, sans parler, bien évidemment, de ce qui avait été développé sur un plan touristique par les propriétaires de ce lieu, la famille Bondil, pour ne pas la nommer, et qui était évidemment extrêmement attaché à cet endroit, tout comme les habitants des Salles, comme village comme on sait, qui a été également englouti.
C'est les Salles sur Verdon, hein,
qui
sont aussi qui ont vécu la même punition. Je pèse mes mots. 1970, on décide, enfin les sommités au niveau national et notamment du consortium de DDF décident de faire un lac artificiel. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont créé Sainte-Croix, Philippe ?
C'était des très bonnes raisons parce que à cette époque-là, on manquait d'une part d'énergie, on est à la sortie de la guerre, mais on manquait aussi d'eau et c'était ça la raison principale puisque même si on ne s'en rend pas compte forcément, l'eau dans laquelle tout le monde va patauger, se baigner, nager, naviguer, c'est l'eau que boivent les grandes villes que sont Marseille, Toulon, qui sans ce barrage ne pourraient plus vivre.
On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un attrait, vous l'avez dit, quand on barbote, il y a un attrait que n'avaient pas prévu les concepteurs, en tout cas pour le barrage de Serponçon, qui est un petit peu plus ancien, c'est l'aspect touristique. On a parlé effectivement d'alimentation en eau, on a parlé de barrage hydroélectrique, donc de production électrique, on a parlé aussi d'agriculture, mais on a découvert aussi le tourisme grâce à la plaisance et grâce à tous ces aménagements qui ont été faits. Fontaine-l'Évêque aurait pu en bénéficier. Vous avez parlé d'un aspect touristique avec la famille Bondil.
Oui.
Expliquez-nous.
La famille Bondil était propriétaire des lieux et je connais bien le descendant qui habite à l'heure actuelle encore tout près de Fontaine-l'Évêque, mais 60 mètres plus haut puisque Fontaine-l'Évêque est noyé sous 60 mètres d'eau.
Il vaut mieux, oui.
Et donc cette famille-là a bénéficié, si l'on peut dire, de l'attractivité de ce monument naturel. Donc il y avait un restaurant qui était extrêmement célèbre, il y avait une guinguette, il y avait un magasin de souvenirs, il y avait toutes ces choses-là qui maintenant nous paraissent assez primitives, assez simples par rapport à ce que l'on fait pour le tourisme, mais qui étaient des points forts qui attiraient énormément de gens.
Et il y avait combien d'habitants à Fontaine-l'Évêque ?
Une famille, c'est un hameau, c'est tout petit.
Tout petit, plusieurs bâtiments je suppose aussi ?
Mais il y a plusieurs bâtiments parce que la puissance de l'eau qui sortait de la cavité de Fontaine-l'Évêque, cette puissance était telle qu'elle a été utilisée pour faire tourner des moulins. Donc la plupart des édifices qui ont été noyés sont des anciens moulins qui ont été réaménagés pour la vie de la famille, qui était une famille d'agriculteurs avec des terres assez développées et donc une activité assez forte. Mais ce sont essentiellement des moulins, puisqu'on a des témoignages des auteurs d'époque moderne qui disent qu'il y avait plus de 10 moulins qui tournaient sur le minuscule fleuve qui se développe entre la résurgence elle-même et le Verdon qui coule tout près. Donc c'est une miniature, mais une miniature d'une puissance incroyable et d'une très grande beauté.
Alors c'est un passé qui n'est pas si lointain que ça en fait, et que vous exhumez, vous levez le voile là-dessus, avec en plus vendredi à partir de 17h, c'est au centre de congrès L'Étoile à Gréoux-les-Bains qu'aura lieu l'événement, il y aura un documentaire qui sera projeté, qui va provoquer certainement des réactions.
Oui, enfin, je tiens à corriger ce que vous dites. Dans le fond, moi, je ne fais pas grand-chose. Le seul mérite que j'ai eu, c'est que justement, grâce à la famille Bondil, qui se souvenait que juste avant les événements, si l'on peut dire, juste avant la mise en eau du barrage, avait été filmée par un monsieur sympathique, et ils m'ont chargé de retrouver ce monsieur et de retrouver ce film. Alors les seules indications que j'avais, c'était la date à laquelle il travaillait, forcément dans les années 73-74, et le fait qu'il travaillait dans une pharmacie. Donc j'ai mené une enquête policière et j'ai réussi à retrouver René Grosjean, puisque le film est de René Grosjean, qui est un monsieur absolument extraordinaire, qui était en effet pharmacien, ou plutôt préparateur, et qui a passé toute sa vie à filmer tout ce qui lui paraissait digne d'intérêt. Et c'est un documentaire qui est fait avec toute l'émotion qui caractérise Monsieur Grosjean, et c'est un documentaire absolument exceptionnel.
Avec un commentaire également ?
Oui, c'est un film qui est monté de façon amateur. Alors, en introduction, Monsieur Grosjean dit « Je vous prie de m'excuser, mais je pense que néanmoins, ce que j'ai fait est intéressant. Donc, je vous laisse regarder. » Ce sont les premières paroles.
Est-ce qu'il sera présent vendredi ?
Alors, il était prévu qu'il vienne, mais les conditions sanitaires font que nous avons renoncé. Parce que je ne dévoilerai pas l'âge de Monsieur Grosjean, mais comme il était déjà un homme relativement mûr en 1970, c'est quelqu'un qui a un certain âge, donc il ne vaut mieux pas qu'il s'expose, il est trop précieux pour cela.
En tout cas, son témoignage sera toujours là et sera intéressant à être vu par des personnes. Il y a des survivants de la famille Bondil qui seront peut-être présents.
Oui, théoriquement, oui, ce sont ses descendants, je préfère dire descendants survivants, qui habitent donc juste à côté de l'ancien site, parce que la famille n'a jamais voulu s'éloigner trop, et donc exceptionnellement, ils ont été autorisés à bâtir une maison juste à côté de la source, mais au-dessus.
Alors c'est une manifestation qui est organisée par la médiathèque Lucien Jacques à Gréoux-les-Bains. Jennifer Top, on est un petit peu loin de la littérature là.
Oui, mais alors vous savez, dans les médiathèques, on ne s'intéresse pas qu'à la littérature.
Il paraît, oui, c'est vrai.
On s'intéresse aussi au patrimoine, aux œuvres de l'esprit, aux œuvres artistiques dans leur ensemble, que ce soit pour les adultes ou pour la jeunesse. Donc on est complètement dans notre domaine d'action.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce sujet particulier d'un village englouti ?
Alors c'était une proposition de Philippe. Ce qui m'a séduit, c'est, comment dire, quand on en parle au public, c'est la disparition en fait, c'est la rupture, c'est le souvenir, enfin c'était...
Puis c'est cet adjectif magnifique qui prend tout son sens, englouti.
Tout à fait.
C'est un monde, une civilisation, une famille, enfin tout ça c'est, évidemment ce n'est pas un accident, au contraire, c'est voulu par l'homme. Donc ça nous pose question quoi, de nous dire, pour le village des Salles sur Verdon, par exemple, notre ami Louis Plantier qui avait fait un très beau reportage et qui a gardé une trace avant, j'allais dire, l'immersion du village et après, avec ses déracinements, c'est le cas de le dire, des personnes qui étaient en vie et qui donc se sont retrouvées un petit peu plus haut, 60 mètres plus haut, comme disait Philippe, mais en sécurité. alors que le village traditionnel, le village de leur naissance, de leurs parents, de leur famille, avait disparu. C'est un peu le rôle d'une médiathèque de mettre le doigt sur cette histoire patrimoniale et en plus locale, très locale.
Vous savez, on s'aperçoit, on voit déjà l'intérêt, l'attachement du public au patrimoine, que derrière, il y a toujours une émotion, en fait. Donc, au-delà de l'aspect historique, de l'aspect artistique, etc., on a toujours cette question. Voilà, chacun en touche à une émotion. Donc, oui, bien sûr. Et puis, la médiathèque, au-delà du fait de permettre la rencontre avec le patrimoine et le public, c'est aussi un lieu d'échange. Et on commence déjà pour en parler beaucoup à notre public qui s'inscrit à cette rencontre, et c'est souvent le cas lors d'autres rencontres. Chacun a quelque chose à partager, en fait. Et chacun se retrouve. Et à Gréoux, on a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais moi, j'y allais à Fontaine-l'Évêque. Quand j'étais jeune, la buvette, la guinguette. » Donc, voilà, c'est tout ça qu'on... ça relie les gens, en fait.
Vous allez les sortir de l'eau. C'est intéressant. Jennifer, il faut s'inscrire pour cette manifestation, pour pouvoir assister à la projection et à la rencontre.
Tout à fait. En fait, chacune des rencontres Parlons Patrimoine remporte un joli succès. On a souvent beaucoup de monde et très vite, on s'est dit qu'il était important de réserver sa place.
Comment ça se passe?
Alors, vous téléphonez à la médiathèque ou vous vous y rendez, la médiathèque de Gréoux. Donc, vous pouvez appeler au 04 92 70 48 20 et on vous réserve votre place. Vous
04 retirez... 92 4, 70 48 20.
C'est bien ça. Et vous pourrez retirer votre billet de réservation le jour même à partir de 16h et jusqu'à 16h45.
C'est gratuit ?
C'est tout à fait gratuit car c'est organisé par la médiathèque en partenariat avec l'Office du tourisme de Gréoux et la ville de Gréoux que je remercie vivement. Pour ce beau projet. Et je remercie Philippe Borgard aussi, et le CNRS et le Centre Camille Julien, puisque c'est un projet que nous avons monté en collaboration. Donc, oui.
C'est évidemment, les mesures sanitaires, les masques et l'alcool, le gel hydroalcoolique pour tout le monde, etc., les distances,
oui.
Pour passer une soirée intéressante sur un dossier passionnant aussi et en même temps qui nous questionne un petit peu quand on va se baigner du côté de Sainte-Croix. On pense pas qu'il y a eu des villages engloutis et des drames un petit peu comme un Serre-Ponçon, hein, pour Savines. Donc de penser à cela, c'est important, c'est un patrimoine aussi qu'il faut conserver. Ce sont d'ailleurs les journées du patrimoine ce week-end. Jennifer, vous n'en avez pas chômé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Comme chaque troisième week-end de septembre, les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion d'apprécier la richesse et la diversité de notre patrimoine. Donc juste peut-être un petit mot pour dire que les médiathèques de la DLVA vous proposent plusieurs rencontres. Vous aurez le jour même, vendredi 18 septembre à 18h30, une autre rencontre à la médiathèque de Valensole, Lire ou ne pas lire, qui revient sur la création de la médiathèque de Valensole de la bibliothèque à l'époque, par Paul Morel. Le lendemain, le 19 septembre, à 10h30, vous aurez une conférence à la médiathèque d'Herbès de Manosque sur Fidèle Patriti, un peintre des églises des Basses-Alpes. Et à 18h30, une rencontre sur Louis-Denis Valverane à l'église Notre-Dame de Romigier.
Avec une conférence de Martin Motte, qui est son petit-neveu.
Tout à fait.
Et c'est passionnant. Et en plus, c'est un peintre magnifique, Louis-Denis Valverane.
Voilà, donc c'est l'occasion de le découvrir ou d'en savoir plus sur sa vie et son œuvre. Et puis, des visites guidées tout le week-end, des archives municipales, de l'exposition permanente Jean Giono à l'Hôtel Raffin, ou du Paraïs, la maison de l'écrivain. Voilà, et aussi une exposition sur Boris Vian, à l'occasion des 100 ans de sa naissance à la médiathèque d'Herbès.
Je suis snob, disait-il ce matin sur notre antenne, figurez-vous. Et chantait-il même, plutôt. Merci beaucoup, Jennifer. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à taper sur vos moteurs de recherche préférés, Journée européenne du patrimoine. Vous trouverez certainement quelque chose pas très loin de chez vous. Et n'hésitez pas à visiter toutes ces structures qui sont ouvertes pour, tout simplement, pour vous ouvrir aussi l'esprit sur le passé.
Oui, tout à fait. N'hésitez pas à visiter le site internet des médiathèques sur lequel vous retrouverez toutes les informations et pour nos collections.
Pour ce week-end et puis pour les autres manifestations qui sont prévues par les médiathèques que l'on salue ici même, et notamment votre directrice Claire Zara. qu'on aura bientôt en plateau, je pense, pour les correspondances de Manosque et puis pour d'autres réjouissances. Merci beaucoup, Jennifer. Bon week-end agité, j'ai cru comprendre. Merci aussi, Philippe Borgard, pour vos éclairages sur cette question très particulière de Fontaine-l'Évêque. Et vous serez présent donc vendredi. C'est à 17h, attention, hein, au centre de Congrès L'Étoile à Gréoux-les-Bains. Bonne journée à vous, à bientôt.
Merci pour votre invitation.